Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Sénégal, le président Macky Sall est sous pression face à la menace de nouveaux troubles cette semaine, après ceux qui ont fait au moins 5 morts la semaine dernière suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Nous y reviendrons avec Jean-Roger Bion et notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay. En Côte d'Ivoire, pouvoir et opposition revendiquent la victoire aux législatives de samedi avant la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Notre correspondant Siri Kibaro nous donnera les détails. 6 personnes, un soldat et 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués samedi lors d'une embuscade contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris dimanche de sources sécuritaires. En Guinée équatoriale, au moins 20 personnes ont été tuées et 600 blessées dimanche dans 4 explosions accidentelles de dépôts d'armes et de munitions d'un camp militaire à Bata, la capitale économique. Ces explosions ont également littéralement rasé plusieurs quartiers d'habitation. Le président Teodoro Obiang-Nguema a accusé des fermiers d'avoir laissé se propager un feu d'écobuage mal maîtrisé et les militaires chargés de surveiller l'arsenal de négligence. Au Mozambique, le chef d'état-major adjoint de l'armée a démenti dimanche les accusations d'Amnesty International selon lesquelles les forces armées et un groupe de sécurité privée s'étaient rendus responsables de crimes de guerre au cours de la lutte contre les djihadistes d'Al-Shabaab qui sèment la terreur depuis 3 ans dans le nord-est du pays. L'UNICEF a prévenu ce lundi que la pandémie de coronavirus pourrait engendrer le mariage de 10 millions d'enfants d'ici 2030, qui s'ajouterait aux 100 millions de filles considérées comme à risque d'être mariées d'ici la fin de la décennie. Plusieurs conséquences de la pandémie ont été citées, principalement les fermetures d'écoles, la dégradation de la conjoncture économique, les perturbations dans les services publics et les décès de parents. Selon l'UNICEF, 650 millions de jeunes filles et femmes dans le monde ont été mariées avant leurs 18 ans. La moitié de ces mariages ont eu lieu dans 5 pays, le Bangladesh, le Brésil, l'Éthiopie, l'Inde et le Nigeria. Selon des chiffres publiés en 2020 par l'UNICEF, la proportion des jeunes filles mariées avant leurs 18 ans atteint 76% au Niger et 68% en République démocratique du Congo. S'asseoir dans un café, manger au restaurant, retourner sur les bancs de l'école, Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement rendues possibles par une campagne de vaccination massive. Le pape François a conclu hier soir sa visite historique en Irak. Eric Manirakiza fera le point dans quelques instants. De nouvelles attaques ont ciblé l'Arabie Saoudite dimanche, le jour où la coalition militaire qu'elle dirige a lancé une opération contre les rebelles au Yémen avec des frappes sur la capitale Sanaa, les premières depuis des mois. En Birmanie, les forces de sécurité se sont déployées dimanche à la nuit tombée dans plusieurs quartiers de Rangoon, la capitale économique, après que des milliers de personnes, dont plusieurs ont été blessées, ont manifesté contre la junte dans la journée. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a de nouveau écarté une démission dimanche après avoir été visé par de nouvelles accusations de harcèlement sexuel et des appels au départ venus de responsables démocrates. En poste depuis 10 ans, M. Cuomo avait déjà été mis en cause par 3 femmes ces 10 derniers jours pour des gestes ou des commentaires déplacés à connotation sexuelle. L'épouse du prince Harry, Meghan Markle, qui est métisse, a fait état d'inquiétude au sein de la famille royale britannique sur la couleur de peau de son fils Archie lorsqu'elle en était enceinte. Une de ses révélations dans une interview explosive diffusée dimanche soir sur CBS ici aux États-Unis. La suite de nos informations. Au Sénégal, la pression est forte sur le président Macky Sall pour qu'il réponde à la colère de la rue alors que se profile une nouvelle semaine de manifestations après des troubles qui ont fait au moins 5 morts. Jean-Roger Bion.
Une haute personnalité réputée indépendante, le médiateur de la République Alioune Badara Cissé, a pressé le président de sortir de son silence pour s'adresser aux jeunes. Monsieur Cissé a ajouté sa voix aux appels de l'ONU et des organisations africaines à toutes les parties pour chercher les voies d'une désescalade. L'arrestation mercredi de l'opposant Ousmane Sonko a mis le feu aux poudres. Il crie au complot ourdi par le président lui-même pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait en cortège au tribunal pour répondre à des accusations de viol portées contre lui, il doit être présenté à un juge aujourd'hui. La décision attendue de le relâcher ou de l'écrouer s'annonce lourde de conséquences. Un collectif qui entend porter la contestation, le mouvement de défense de la démocratie, a appelé à 3 jours de manifestation. Il réclame la libération des prisonniers arbitrairement détenus, dont Ousmane Sonko. Les autorités ont suspendu l'école sur tout le territoire pour la semaine afin de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des heurts redoutés. Le ministre de l'Intérieur a prévenu que l'État emploierait tous les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre.
En Côte d'Ivoire, le pouvoir et l'opposition ont revendiqué dimanche leur victoire aux élections législatives de la veille, avant la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante qui continue de compter les bulletins de vote. Le point avec Michel Joseph.
Notre objectif était de remporter autour de 60% des sièges. Nous y sommes, a déclaré Adama Bittogo, numéro 2 du parti au pouvoir. En début d'après-midi, Nyamke Kofi, coordinateur général pour les législatives du PDCI, principal parti d'opposition, avait lui aussi revendiqué la victoire. La commission électorale indépendante, CEI, chargée de la proclamation des résultats, n'en avait annoncé dimanche soir qu'une partie. La population n'a pas manifesté un réel intérêt pour cette élection, a indiqué sans donner de chiffres Indigo, organisation ivoirienne qui avait déployé 500 observateurs dans tout le pays. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques ont participé. Ces législatives de samedi se sont dans l'ensemble déroulées dans le calme, contrairement à la présidentielle d'octobre 2020, marquée par des violences avant et après le scrutin qui avait fait quelque 87 morts et quelques 500 blessés.
Le pape François a conclu hier soir sa visite en Irak, la première d'un pape dans l'histoire du pays, après une messe dans un stade d'Erbil, Eric Manirakidza.
Depuis vendredi, le pape François a sillonné Bagdad, Mossoul ou Karakosh, dans le nord supplicié par les djihadistes et porté la cause de l'une des plus anciennes communautés chrétiennes, mais aussi l'une des plus dispersées dans le monde, jusque devant le grand Ayatollah Ali Sistani, référence religieuse de la plupart des musulmans chiites. Lors d'un de ses discours, le souverain pontife a appelé à la paix au Moyen-Orient et en particulier en Syrie martyrisée. Le pape François a rencontré hier soir à Erbil, au Kurdistan irakien, le père d'Ayalan Kurdi, le petit garçon syrien mort noyé en mer Égée, devenu un tragique symbole de la crise des réfugiés en 2015. Le pape s'est entretenu longuement avec Abdallah Kurdi, qui vit désormais au Kurdistan irakien, et a pu écouter la douleur d'un père ayant perdu sa famille, indique un communiqué du Vatican. Aylan Kurdi est mort noyé avec son frère aîné Galip et sa mère Rehana lorsque leur embarcation pneumatique avait coulé en pleine mer Égée. La famille originaire de Kobané, dans le nord de la Syrie, voulait rejoindre le Canada.
La Minute Éco, John Linden.
En République démocratique du Congo, la loi des finances pour l'exercice 2021 prévoit près de 24 millions de dollars pour la relance et l'industrialisation du secteur agricole dans les 26 provinces. Selon Financial Afrique, ce financement est destiné à l'acquisition des semences, des produits agroalimentaires et de divers équipements. Le Fonds monétaire international annonce l'achèvement de l'accord avec la Mauritanie sur la facilité élargie de crédit pour le décaissement d'environ 23,8 millions de dollars. L'accord a été approuvé en décembre 2017 avec un accès total d'environ 167 millions de dollars destinés à aider les autorités mauritaniennes à répondre aux besoins sociaux et d'infrastructures du pays. Toujours en Mauritanie, Aissata Lam a été portée à la tête de la toute nouvelle agence pour la promotion des investissements et devient la patronne de la jeune chambre de commerce à Nouakchott. Femme de réseau, membre du conseil consultatif pour l'égalité homme-femme en France en 2019, la promue est diplômée d'HEC à Montréal au Canada. L'économie américaine a créé 379 000 emplois en février. Le taux de chômage a légèrement baissé à 6,2%. Les économistes avaient prédit qu'il resterait stable, mais le taux officiel de chômage est sous-estimé en raison de la pandémie.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Élection à la présidence de la Confédération africaine de football, il n'y a plus qu'un seul candidat.
Et oui, il sera seul en lice vendredi prochain à Rabat. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, ses trois adversaires candidats déclarés à la présidence, se sont désistés pour se ranger derrière Augustin Senghor, le Sénégalais, Jacques Anouma, l'Ivoirien et Ahmed Yahia, le Mauritanien. Tous les protagonistes étaient réunis dans la capitale de la Mauritanie en marge de la finale de la CAN des moins de 20 ans pour officialiser donc ce deal, à savoir des poses de vice-président et de conseiller en échange de leur soutien. Le tout sous le patronage de la FIFA et de son président Gianni Infantino.
Et sur le terrain, à Nouakchott, on a eu droit à la finale de la CAN des moins de 20 ans remportée par le Ghana.
L'épilogue de trois semaines de compétition remportée par les Black Starlets devant des Ougandais époustouflant tout au long du tournoi où ils rêvaient d'une grande première. Mais l'expérience des Ghanéens a pris le dessus. Une victoire, somme toute logique 2-0. Les deux buts ont été marqués par Daniel Afrié-Berné. Quatrième titre continental, donc, pour les juniors ghanéens. Le dernier remonte en 2009. Le Ghana rejoint l'Égypte, qui compte aussi 4 victoires. Le Nigeria reste toujours la nation la plus titrée avec 7 trophées.
Le foot, c'est aussi côté club, les Coupes d'Afrique et en Ligue des Champions, énorme désillusion pour le TP Mazembe.
Tout à fait. Les Corbeaux de Lubumbashi battus 2-1 dans leur stade par les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns. Première défaite à domicile en Ligue des Champions depuis plus de 10 ans et une phase de poule bien mal embarquée. 2 matchs nuls et un revers après 3 matchs. De Kinshasa, Valdo Simbo-Yamba-Yamba.
C'est une contre-performance qui intervient après 12 années d'invincibilité depuis l'inauguration de ces temples de Kamalondo qui a tout donné à Mazembe aux interclubs de la CAF. Une première défaite que l'entraîneur Miyayo ne veut justifier.
Au moment où tu as perdu un match, donc tout est nul, il n'y a rien d'intéressant.
Et pourtant, les supporters de Corbeau attendaient une réaction positive de leur équipe, nous confie le journaliste indépendant Monfino.
Tout Kamalondo était mobilisé pour voir cette équipe du tout-puissant Mazembe Englebert se relancer dans la compétition en s'imposant sur Mamelodi Sundowns. Malheureusement, c'est pas arrivé. En tout cas, Kamalondo est dans le noir.
Ses supporters estiment également que Miyayo n'est pas à sa place. Eux qui attendaient beaucoup de lui, a pris son stage passé en Belgique.
Certains, c'est le coach qui n'est pas à la hauteur. On dirait qu'il a perdu le temps en allant en Europe. Il faudra tout de suite chercher un entraîneur capable d'apporter un plus.
Si Mazembe accuse des faiblesses qu'il faut travailler afin de sortir de ce qu'il est présage, a reconnu Pamphile Miyayo. Malgré cette contre-performance, Mazembe demeure encore en course pour une place en quart de finale, puisqu'avec ses 2 points, les Corbeaux sont deuxièmes. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Avec 7 points d'avance sur les 3 autres équipes, le club de Pretoria s'envole en tête du groupe B. Mazembe compte 2 points à égalité avec Al Hilal et le CR Belouizdad qui se sont neutralisés la veille 1-0. A noter dans le groupe A, le très bon match nul de l'autre club congolais, l'ASV Club, 2-0 au Caire face à Al Ahly, le tenant du titre. Le club de Kinshasa est deuxième du groupe derrière les Tanzaniens de Simba, auteur d'un nul 0-0 au Soudan contre Al Merrikh.
Et dans le groupe D, Élisée, les Sénégalais de Tenguet ont été battus à domicile.
Exactement, Idrissa. Défaite 1-0 face au Mouloudia d'Alger au stade La Dior de Thiès. Apprentissage difficile pour le club de Dakar qui compte un point en trois matchs avec cette deuxième défaite. Le club de Rufisk est bon dernier du groupe, dominé par l'Espérance de Tunis, vainqueur 3-1 du Zamalek du Caire. Et puis, dans le groupe C, le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile devant le club guinéen de Oroya Conakry par 2-0, auteur de 3 victoires en autant de rencontres. L'équipe, entraînée par Fawzi Benzati, poursuit son sans faute avec 9 points à 5 longueurs des Sud-Africains de Kaizer Chiefs, vainqueur 2-0 un peu plus tôt à domicile des Angolais de Petro Atlético de Luanda.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la semaine dernière s'est achevée sur une vague de violentes manifestations à Dakar et dans plusieurs villes du pays, suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Des scènes de pillage et d'attaques contre les médias ont aussi été observées. Le gouvernement a annoncé vendredi au moins 4 morts. Pour de nombreux Sénégalais, cette contestation dépasse la personne d'Ousmane Sonko. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Nous avons faim, nous avons soif. Cette situation est plus qu'insupportable.
Ces mots sortent de la bouche d'un père de famille qui crie au secours. Il a du mal, dit-il, à joindre les deux bouts. À cela s'ajoute une situation sociopolitique délétère. Il n'est pas le seul Sénégalais qui dit vivre un certain malaise en ce moment. Des personnes tuées, des centaines de blessés, des biens publics et privés saccagés, Ousmane dénonce le discours du ministre de l'Intérieur qui a contribué, d'après lui, à attiser le feu.
Le discours du ministre de l'Intérieur n'a aucun sens. On s'attendait à ce qu'il nous tienne un discours de paix, d'apaisement. Mais au contraire, il a envenimé la situation. Le peuple ne va pas reculer. Il doit libérer Sonko et les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous avons des employés à payer. Personne n'arrive à travailler correctement. Ils sont en train de nous causer d'énormes préjudices que les autorités pensent au peuple.
Les plus jeunes sont entrés dans la danse et dénoncent la conjoncture, le chômage, entre autres.
Ce combat va au-delà de l'affaire Ousmane Sonko. Il y a tellement de choses à pointer du doigt. Rien ne marche dans ce pays. Nous menons un combat pour avoir un bel avenir. Nous le menons aussi pour les générations futures. Nous défendons la démocratie.
Doudou Diop est menuisier. Il n'apprécie guère les violences, les agressions et les cas de vol constatés. Pour lui, il faut préserver la paix sociale qui a toujours été la force du Sénégal.
Les cas de vol me font très mal et il faut que les Sénégalais se calment un peu et surtout qu'ils arrêtent les pillages. Prenons l'exemple de Auchan ou encore de Total. Tant de nombreux Sénégalais travaillent, ils risquent de tout perdre. Et cela va plonger davantage le pays dans une crise économique sans précédent. Tout ceci me fend le cœur. Il faut qu'on se calme.
C'est dans ce climat social tendu que l'opposant Ousmane Sonko fera face ce lundi au juge. L'opposition et les organisations de la société civile ont lancé un appel de 3 jours de désobéissance civile pacifique dans tout le pays et dans la diaspora. Selon les organisateurs, l'objectif est de rétablir la démocratie. Pendant ce temps, l'armée sénégalaise a déployé des troupes et des blindés qui ont quitté certaines casernes de l'intérieur du pays pour faire cap sur la capitale. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Ivoiriens étaient appelés aux urnes le samedi 6 mars pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale, un scrutin législatif qui intervient 5 mois après la présidentielle d'octobre 2020, boycottée par l'opposition. Pour la première fois depuis plusieurs années, l'ensemble de la classe politique ivoirienne était dans la course samedi. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, nous dit notre correspondant à Boaké, Chériki Barreau.
Faible affluence dans les lieux de vote, mais un scrutin calme et paisible, comme le confirme cet électeur.
Amara Sangaré, chef canton de la région de Folon, à Boaké. C'est notre plein droit de voter. Il n'y a pas de problème, on a voté proprement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à gauche, à droite, c'est propre.
Avec le retour dans l'arène politique de l'opposition dans cette course pour le contrôle de la première chambre du Parlement ivoirien, c'est la démocratie qui se renforce. C'est l'analyse de Alaa Kwame, journaliste et correspondant de presse.
L'opposition, toutes tendances confondues, qui avait boycotté les élections du 31 octobre, sont effectivement dans les urnes pour prendre part à ces élections. C'est dit que nous sommes dans un retour à la normalité politique en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs sont présents et de nombreux indépendants. C'est un retour à la paix, à la normalité politique et institutionnelle.
L'enjeu de ces législatives est certes la majorité parlementaire, mais le taux de participation est un indicateur important à observer, toujours selon Alaa Kwame.
L'un des enjeux, c'est de voir le taux de participation. Aux élections présidentielles, avec le boycott de l'opposition, on a eu un taux de participation qui ne représentait pas la réalité politique et électorale de la Côte d'Ivoire. Avec la présence de tous, nous verrons effectivement si toutes les tendances politiques en Côte d'Ivoire vont prendre part aux élections législatives.
La charte de bonne conduite signée par tous les candidats à cette élection a été respectée. Le ministre Amadou Koné, candidat et tête de liste du RHDP à Boaké, s'est dit satisfait de cette bonne ambiance.
C'est une élection importante. Je note que dans notre région, dans notre circonscription, il n'y a pas de passion excessive. Donc je voudrais saluer cela. J'ai eu l'occasion de saluer tous les candidats pour la qualité de la campagne.
Dans les rangs de l'opposition, on reste confiant. Et pour Berthe Idrissa, candidat du PDCI sur la liste de la plateforme de l'opposition EDS à Boaké, la sécurisation des résultats est capitale.
Nous, cette fois-ci-là, on a mis le paquet sur la sécurisation des résultats. Parce que nous savons que si les élections se passent normalement, la liste EDS-PDCI, on n'aura pas de problème. Le PDCI nous a fait parvenir des tablettes avec lesquelles, à chaque heure, on a les tendances.
Il est à noter que le vote n'a pu se tenir dans une circonscription électorale au nord de Boaké. Il s'agit de Niakaramadougou et Tortia. En cause, le décès de l'une des candidates la veille du scrutin. La commission électorale indépendante dispose d'un délai d'un mois pour la tenue effective des élections dans ces localités. Chériki Barreau, Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a fait ce week-end le tirage au sort des noms des candidats pour l'impression des spécimens pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Malgré le retrait de la course de trois candidats de l'opposition, la CENI les a pris en compte conformément à l'arrêt rendu par la Cour suprême qui refuse de donner suite à leur désistement. Colère et indignation de ces candidats qui sont rendus au siège de la CENI pour exprimer leur mécontentement. Notre correspondant à Niamena, André Kodmajinger.
Le candidat de l'Alliance Victoire, Maître Théophile Bongoro, et son porte-parole, François Ndjekombe, étaient les premiers à être reçus par le président de la CENI, Kodi Mahamat, peu avant la cérémonie de tirage au sort. Ils sont venus notifier au président de la dite institution la copie de la décision prise au sein de leur alliance de ne pas participer à cette élection. François Ndjekombe est le porte-parole de l'Alliance Victoire.
Nous ne sommes pas concernés par cette mascarade. Et donc, pour nous, le 11 avril, il n'y aura pas d'élection au Tchad. Nous allons vraiment militer dans ce sens-là, même si aujourd'hui, la CENI nous force pratiquement à être candidat.
Dans la salle, le climat était tendu entre le professeur Avoksoma Diona, représentant du candidat désisté Saleh Kebzabo, et les membres du bureau de la CENI, au moment où ces derniers font un appel nominatif pour confirmer la présence des candidats en lice ou leurs représentants.
Monsieur Saleh Kebzabo,
est-ce que je peux dire quelque chose?
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas une tribune ici. Est-ce que vous représentez M. Saleh Kebzabo, oui ou non?
Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas partants pour cette
élection-là. Et dans ces cas, je ne vois vraiment pas quel intérêt vous avez à vouloir absolument voir l'UNDF vous accompagner.
La règle de la justice s'impose à tout le monde, y compris le président de la République.
Lorsque
ce que vous dites n'engage nullement
les règles suprêmes ne sont pas respectées par le président.
Ah, ça c'est vous qui le dites, ce n'est pas nous. Donc je vous remercie d'être quand même venu. S'il vous plaît.
Le président de la CENI, Kodi Mahamat, tente de calmer le jeu.
Nous avons un arrêt de la plus haute juridiction du pays. Nous ne pouvons pas nous soustraire de cet arrêt jusqu'à ce que la même juridiction nous dise le contraire, et cela, quelles que soient les raisons. Nous comprenons cependant la motivation des uns et des autres et nous les respectons.
Max Kamkwe, leader de l'opposition, refuse d'aller à cette élection présidentielle qu'il juge peu crédible. Il donne ses raisons.
Pouvoir réaliser l'alternance à travers les élections dans de tels contextes est tout simplement un rêve éveillé. Ainsi donc, nous ne sommes pas des adeptes de la politique spectacle, ni des bêtes de foire qu'on exhibe pour servir ses intérêts. Nous ne sommes pas non plus de ceux qui prennent la politique pour leur planche à billets, dont à chaque cycle, il faut la faire tourner pour en récolter des prébendes ou pour s'enrichir. Ce faisant, j'ai décidé de ne pas cautionner cette forfaiture.
La réaction du président de la CENI ne se fait pas attendre. Kodi Mahamat estime que rien ne l'empêche d'organiser une élection crédible.
Vous êtes libre de constater que les conditions que nous observons ne peuvent pas permettre le déroulement de deux scrutins. On est en démocratie, chacun peut penser ce qu'il veut. Pour nous, elle doit être libre et transparente, puisque rien ne s'oppose à organiser ce scrutin.
La plateforme des serviteurs de Dieu pour la justice au Tchad, quant à elle, se préoccupe du climat d'insécurité qui entoure ce processus et invite le président Déby à écouter la voix du peuple et de se retirer de la course s'il a vraiment l'amour de la patrie. André Kotuma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ce 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Au Gabon, en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, les autorités n'ont pas prévu de commémoration officielle. Mais le combat pour le droit des femmes reste d'actualité dans ce pays d'Afrique centrale. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Chantal Mengue, technicienne de surface, estime que le 8 mars est un rappel de la responsabilité sociale de la femme dans la société gabonaise.
Donc, le rôle de la femme est très important dans la société. L'homme est là pour chercher à amener les vivres à la maison, mais la femme, c'est elle qui est la gardienne, en quelque sorte, de tout ce qui est coutume, de tout ce qui est tradition, de tout ce qui est éducation.
Cette année, la journée des femmes sert de cri de ralliement au concept Génération Égalité qui réclame des actions favorisant l'avènement d'un avenir à chance égale pour tous.
Il ne s'agit pas de festoyer ou de bamboula ou de pagne. Il s'agit de faire un état des lieux. Et les discours, les slogans, mais ça n'a rien à voir. C'est une honte.
Marie-Sylvie Hervois-Kenengue est une militante associative, scandalisée par une série de commémorations des journées de la femme sans perspective.
Et il faut que la femme soit en position de décision sur la table où la décision se fait. Ce n'est pas quantitatif. On peut nommer 10 femmes. Ce n'est pas lorsqu'il y a des élections. Mais d'abord, elles doivent être formées. Et au mérite, tant que la méritocratie ne sera pas institutionnalisée dans mon pays, eh bien, ça donnera ça.
Une sorte d'invitation à la prise de conscience et au sens de l'engagement de la femme gabonaise pour ses droits, qui est soutenue par Georgette Coco. Elle est ancienne présidente du Conseil économique et social du Gabon.
Ce sont nos droits que nous devons faire entendre. N'attendez pas que c'est les hommes qui le fassent à notre place. Nous sommes capables aujourd'hui de prendre notre destin en main.
Prendre son destin en main, c'est aussi avant tout se battre pour son autonomisation, selon Sidonie Owe, ancienne procureure de la République.
Il se trouve qu'il s'agit des droits dans leur entièreté. Donc les femmes elles-mêmes doivent se sentir concernées par la question de l'autonomisation. Une autonomisation globale, se prendre en charge soi-même, question de volonté personnelle qui doit être soutenue par l'extérieur. Malgré tous les efforts venus de l'extérieur, si on n'est pas motivé soi-même, ce sera vraiment un coup d'épée dans l'eau.
Même si des inégalités restent encore perceptibles dans la promotion des droits des femmes au Gabon, force est de reconnaître que de nombreux progrès ont été accomplis. Elles sont à la tête de prestigieuses administrations et institutions comme la Cour constitutionnelle, le Sénat ou encore la primature. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.